bonsoir et un grand merci à vous de nous accompagner et de nous éviter ce petit moment de déprime presque post-festival. Vous savez qu'on vient de passer 4 jours ensemble. Certains d'entre vous ont fait tout le long les cafés littéraires, les débats, les rencontres. Il y a des visages qui sont devenus des visages habitués et amis, d'autres qui découvrent le festival pour la première année. Et on a toujours plaisir à prendre un tout petit moment avec quelques-uns des écrivains qui sont encore ici, ceux qui habitent à proximité et rentreront chez eux dans cette bonne Lorraine, n'est-ce pas, Jean-Philippe Jaborski ? Et puis aussi d'autres écrivains qui finalement décidaient de rentrer tranquillement demain matin par les différents trains qui ramènent nos auteurs dans le monde réel autour de leurs ordinateurs, parce qu'évidemment on a besoin de savoir quels sont les prochains livres qui nous permettront de vous inviter l'année prochaine, l'année suivante ou dans les années à venir pour certains d'entre vous. Pourquoi écrivez-vous ? C'est peut-être une question idiote, mais c'est celle que j'ai décidé de poser. J'avais vu ça une fois dans un dossier littérature générale et je me suis dit pourquoi on ne poserait pas des questions aussi idiotes que dans le domaine de la littérature générale parisienne. Alors on va jouer un peu les intellos. Non, je plaisante. On va poser cette question à chacun d'entre vous et j'attends de vous des réponses sincères. Rien de plus, rien de moins. Alors, puisque la sincérité est une de ses qualités, Thomas D., pourquoi écrivez-vous ?
Alors, déjà, je trouve qu'il y a deux questions. C'est-à-dire que la première question, c'est pourquoi vous écrivez ? La deuxième question, c'est pourquoi vous publiez ? Et je trouve que ce n'est pas du tout la même question et la même problématique. Alors, j'écris parce que je ne peux pas faire autrement. J'ai toujours aimé ça et aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours écrit des petites histoires, etc. Et ça pourrait amplement me suffire, juste d'écrire. Et je publie parce que j'ai remarqué que ça me rapportait de l'argent et que c'était tout simplement bien agréable. Voilà. Sincère ?
Voilà une réponse cynique telle qu'on l'attendait, mais c'est toujours un bonheur avec qui. La Benjamin, au niveau écriture de ce panel, puisque Emmanuel Nunke est là pour son premier roman, Hors de marge. Alors, bon, on voit bien des auteurs qui ont blanchi sous le harnois, des auteurs qui se tiennent à peine, même dans un café littéraire de fin de festival, des auteurs plus ou moins louches. On verra tout à l'heure Jean-Philippe Jaborski, justement. Mais Emmanuel Nunke, vous avez l'air d'une jeune fille posée, vous avez même été bibliothécaire à Épinal. Pourquoi écrivez-vous ?
Je vais démentir ce qu'a dit mon collègue, moi pas pour le sou, parce que ça ne me rapporte pas assez pour un livre.
C'est quoi votre éditeur ?
Non, mais c'est pas le problème de l'éditeur, c'est qu'en tout cas mon premier roman, et que quand j'en aurai une tonne derrière moi, peut-être que, mais pas pour l'instant. Moi j'écris avant tout, comme les autres je suppose, pour le plaisir, pour raconter des histoires, pour partager après avec les lecteurs. Mais mon truc à moi, si j'écris, c'est aussi pour devenir famille. Parce que j'ai trop d'idées dans la tête et une fois qu'elles sont sorties, je me sens un peu mieux.
Vous me dites c'est pour pas devenir cinglé et ça reste, ça marche et tout.
Oui, en fait. Mais il y en a qui sont peut-être pires que moi, j'ai entendu parler des sur thérapeutique, que ça leur faisait du bien, je sais pas si j'en suis là ou pas encore, mais ouais, je crois que j'ai vraiment trop de pensées qui tournent dans ma tête et qu'il y a des moments où ça m'épuise un peu. Donc une fois qu'elles sont dehors, c'est moi qui suis tranquille.
En tout cas, Bord de marge est un très 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 joli roman pour les jeunes lecteurs. Faut pas hésiter à l'offrir à un très jeune lecteur. C'est pas si fréquent dans nos milieux. Je pars à partir de... T'as un très bon lecteur, 8-9 ans, je suis persuadé que...
J'ai eu hier une petite fille de 8 ans, effectivement. J'ai été un peu étonnée, pour moi c'était un peu jeune, mais apparemment ça lui plaisait beaucoup. Et puis elle avait des parents attentionnés autour et... qui peuvent expliquer si jamais elle a des difficultés.
Voilà, un premier roman qui visiblement commence à plaire. En tout cas, vous avez remarqué déjà le professionnalisme impressionnant d'Emmanuel Nunke. Quand elle a lâché, encore un peu jeune, qu'elle ne gagnait pas assez, tout de suite j'ai demandé le nom de son éditeur et tout de suite elle a glissé en expliquant mais c'est parce que je n'écris qu'un premier roman. Vous voyez à quel point très vite on devient dans ce milieu un grand professionnel. Marie-Janice Davidson, vous êtes une grande professionnelle, vous avez de nombreux romans derrière vous, et sans citer de nom, parce que la discrétion m'y oblige, je pourrais citer une traductrice qui a découvert vos romans dans le cadre de ce travail, puisqu'elle est venue travailler aux Imaginales, et on lui avait demandé de lire le dernier premier, et elle a acheté toute la série, et en anglais, et elle est fan. Comment vous expliquez ça? Vous en sorcelez? Comment vous faites, Marie-Janice Davidson? C'est pour provoquer ce genre de phénomène que vous écrivez?
Oh, this is all according to my sinister plan. So, absolutely. Actually, listening to Thomas and Emmanuel, I've been both of them. And I, like Thomas, I write because I can't not write. And it's just to my great good fortune that people also like to read what I like to write. I get asked a lot, would you ever write for free? I wrote for free for 20 years. And getting published and having readers like it, it's absolute gravy to me. It was never really the end goal. I just loved writing so much. And again, I've just been so fortunate. It's just to my great good fortune that people also like to read what I like to write. I get asked a lot, would you ever write for free? I wrote for free for 20 years. And getting published and having readers like it, it's absolute gravy to me. It was never really the end goal. I just loved writing so much. And again, I've just been so fortunate that, and coming to a conference like this, it's wonderful to meet established readers, but it's really nice at something like this, when someone will say, well, I had no idea who you were, but we liked listening to you, and I'm going to get your first book now, or my poor translator got sucked into my undead Betsy Webb. But I love that, and it's the cherry on the sundae, absolutely. That's a lot of food analogies. I'm hungry.
Alors tout ça, ça s'inscrit dans le cadre de mon plan sinistre pour trouver des lecteurs et vendre mes bouquins. Et je suis un petit peu entre les deux, entre Thomas et Emmanuel. Moi, j'écris parce que je ne peux pas faire autrement. En fait, j'écris parce que mes lecteurs aiment ce que j'écris, mais j'écris aussi parce que j'ai plein de choses en tête et qu'il faut que ces idées sortent. Et on m'a déjà demandé, est-ce que vous écririez si vous n'étiez pas payé pour le faire? Et la réponse, c'est oui, parce que j'aime tellement écrire que j'écrirais même si je n'étais pas payé. J'écris parce que c'est un bonheur pour moi d'écrire. Et ces rencontres comme Épinal sont vraiment importantes pour moi, parce que je suis toujours heureuse de rencontrer le lectorat qui me connaît, mais je suis également heureuse de convaincre un nouveau lectorat, des gens qui viennent me voir et qui achètent mon bouquin, parce qu'ils m'ont vu à une de ces rencontres et qui pensent qu'ils vont aimer ce que je fais. Et je pense également à ma pauvre traductrice qui a acheté tous mes bouquins.
It's good that you're okay with it, though.
Et il reste une dernière chose, et pour moi, c'est la cerise sur le gâteau, mais j'arrête pas de parler de nourriture, c'est parce que peut-être parce que j'ai faim.
Jean-Philippe Jaworski, avant d'écrire de la fantaisie, de venir aux Imaginales, d'y trouver le succès, donc d'aggraver votre cas, vous étiez un enseignant, un agrégé de lettres. Et d'après ce qu'on m'a dit, vous aviez une excellente réputation. Vous travailliez dans un établissement UP du centre de Nancy. Vous y étiez apprécié, estimé, presque soigné. Et puis vous avez écrit quelques nouvelles qui encore pouvaient paraître en quelque sorte des hommages littéraires à vos maîtres, Chrétien de Troyes, tout ça paraissait encore sérieux, même si c'est littérature quand même légèrement douteuse, mais bon. Et gagner la guerre, choisissez comme personnage un véritable tueur, un assassin, c'est pas grave, ça commence bien, un tueur à gages, et finalement, vous décidez de dire « je ». Alors, on sait bien, Madame Bovary, c'est moi, Flaubert l'a dit avant vous, mais quand même, c'est vraiment Benvenuto, ce tueur à gages qui nous raconte l'histoire, c'est vraiment vous, Jean-Philippe Jaworski?
Bon, bien sûr, ce n'est absolument pas moi. Et naturellement, je n'emploie absolument pas d'antiphrase. Ensuite, je dois quand même avouer que j'avais déjà une réputation un peu entachée en tant que prof de lettres agrégé, puisque j'avais fait étudier, par exemple, en classe de première, l'abat de Joris Karl Huysmans, dans un établissement catholique. Un roman dans lequel on décrit dans le détail les meurtres de petits enfants de Gilles de Rais, et dans lequel il y a aussi une très belle description de messe noire avec une orgie. Ce qui m'avait déjà valu, disons, quelques entretiens avec les parents d'élèves et les autorités morales de l'établissement. Donc, peut-être qu'il y avait des signes avant-coureurs d'une certaine perversion qui s'exprimait ensuite, peut-être dans l'usage de la première personne.
Voilà. Mais vous n'avez pas répondu à la question quand même initiale. Pourquoi écrivez-vous uniquement pour ennuyer vos supérieurs, les parents d'élèves, vos collègues?
J'avais essayé d'éluder, mais Stéphanie s'accroche. Pourquoi est-ce que j'écris? Alors, fondamentalement, j'en sais rien. Je me reconnais pas mal dans ce qui a été dit, c'est-à-dire que c'est une nécessité. Ça remonte à l'enfance. C'est peut-être une pulsion, dans ce cas c'est peut-être un peu inquiétant, mais si ça permet d'évacuer des tendances un peu moins socialement acceptables, c'est pas plus mal que ça s'exprime par écrit qu'autrement. C'est vraiment une nécessité, je suis d'accord avec ce que disait Thomas, écrire et publier c'est deux choses. Je trouve une très grande gratification, même si je trouve aussi par ailleurs une très grande difficulté dans le fait d'écrire. Et puis ensuite, la publication ça apporte d'autres gratifications. Financière, sociale. Une gratification qui est importante, c'est que le public, ou du moins une partie du public, appréciant mes livres, j'ai la confirmation que je ne me suis pas complètement trompé dans mes choix narratifs et esthétiques.
Alors bon, c'est pas valable pour tout le monde, Nicolas Bouchard. Vous, c'est l'inverse. Vous avez quand même assez mal commencé, puisque je vous appelle le dire, par les temps qui courent, vous travaillez dans une banque.
Oui, on peut pas dire que ce soit ça qui m'ait donné envie d'écrire.
Peut-être un motif de rédemption.
Peut-être. En fait, je me suis senti à un moment un peu absorbé par un système qui m'ennuyait. La cocotte minute s'est mise à siffler. Et ça a pété et j'ai écrit un roman. Vraiment là, c'est la question pourquoi écrire, pourquoi être publié. C'est aussi la question pourquoi on écrit un premier roman et pourquoi on continue après. Parce que le premier roman est quelque chose d'extrêmement important. C'est une vanne qui se libère. Alors quand tu as gagné de l'argent, il se trouve que de tous les éditeurs qui puissent exister sur la place, je suis tombé sur cet individu-là qui exerce ses coupables activités sous un autre nom d'ailleurs, habilement. Et donc, quant à la couleur de mon argent, je ne l'ai pas vu beaucoup. Donc, j'ai travaillé avec lui. Bon, ceci dit, ça fait longtemps, il y a prescription, je t'ai pardonné. Mais effectivement, après, donc ce premier roman, ça a été une sorte de libération, d'exutoire, de choses comme ça. Je parlais en fait à mon couvert par le biais de la science-fiction de ma propre expérience professionnelle. Mais après, en fait, l'écriture devient, on ne peut pas faire autrement, c'est vrai, mais j'irai plus loin, c'est une drogue. On ne peut plus s'en passer, c'est complètement addictif. Lorsque, pendant une certaine période, je n'écris pas pour des raisons X et Y, je ne suis pas bien, je sens qu'il me manque quelque chose. Il y a un manque. Alors, d'où ça vient? C'est peut-être cette... raconter des histoires, vivre avec des personnages, vivre d'autres aventures, essayer de contrôler son destin, en quelque sorte, en contrôlant le destin de personnages imaginaires. C'est assez difficile à expliquer, mais... là, on est carrément dans l'addiction. Hein. On est tous des grands malades, je pense.
On va donc terminer cette petit tour en comment je fais. On va être prudent avec Xavier Mauméjean parce que c'est un ami fidèle du festival. Mais quand même, il faut quand même dire la vérité à notre public. Xavier Mauméjean ne se contente pas d'écrire. On va lui poser la même question. Mais lui, il aggrave vraiment son cas. C'est-à-dire que non content d'écrire, il est directeur de collection, il nous a d'ailleurs fait l'amitié aux Imaginales de nous annoncer qu'il allait très bientôt créer une nouvelle collection Young Adult, comme on dit aujourd'hui, au Pré-au-Clair, qui devrait donc sortir dans les mois qui viennent. Et donc, il aime aussi torturer les écrivains, parce que c'est quand même le métier d'un directeur de collection, c'est les aider à trouver des idées, bousculer les leurs, et puis finalement, jusqu'à ce que le livre soit abouti, sans cesse, revenir à la charge, torturer le... Non, ça c'est pas terrible. Non, là, franchement, le personnage, psychologie, c'est pas tout à fait ça, etc. Donc ça, on comprend. Ça, c'est les sentiments humains normaux, hein, de vouloir nuire à son prochain. Mais en revanche, quand on est écrivain, on donne quand même du plaisir. Alors, est-ce que vous seriez un peu notre docteur Jekyll et Mr. Hyde, un directeur de collection sadique et un écrivain qui veut donner du bonheur au public?
Alors, j'en remarque déjà que tout le monde a parlé de Thomas D. Tout le monde y a fait mention. Donc, je ne ferai pas exception à la règle. Il y en a un autre directeur de collection ici. Alors, oui, c'est vrai, il y a deux activités. Alors, la première, je réponds exactement comme tout le monde, c'est une nécessité, un besoin, quelque chose qui... C'est pas une palissade, mais c'est vrai qu'il n'existe pas jusqu'à ce que ça s'impose, la nécessité d'écrire. Ça vient pas progressivement, enfin, pour moi, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui... C'est un impératif qui s'impose. Je suis d'accord avec Nicolas, il y a le premier roman, et tu verras, et la suite, et après, je ne sais pas si mes collègues auteurs sont d'accord, mais le premier, on a toute sa vie pour l'écrire, le deuxième, on a 6 mois, un an, donc après, effectivement, tu verras la transition, il y a les impératifs éditoriaux qui viennent... qui viennent maintenant entrer dans le jeu de ce qui jusqu'alors était un jeu individuel, qui était une activité individuelle. Et je pense qu'il faut savoir ménager son talent, pour parler rapidement et de façon sincère, et les nécessités d'autres personnes qui sont des professionnels, qui ne sont pas des ennemis, qui sont des gens qui veulent faire advenir mieux. Un univers personnel pour le faire partager à des lecteurs. Donc, il y a pourquoi et comment on écrit son premier roman, et après ça s'inverse, c'est comment on écrit ses romans suivants, et pourquoi on continue d'écrire, parce qu'il y a un vrai changement entre le premier et le deuxième, c'est ce passage dans l'édition. J'ajouterais aussi que, personnellement, et contrairement au sport national français qui est le nombrilisme, moi je m'engage pas humainement dans mes romans, et pourtant écrire est une nécessité. Pas écrire de moi, mais pas écrire sur moi, mais écrire est une nécessité, d'inventer des personnages, etc. C'est ça qui compte. Et enfin, en tant que directeur de collection, je pense que la place du directeur est de s'effacer dans ses choix, je ne sais pas ce que Gilles en pensera, mais uniquement personnel, ce serait une grosse erreur, ça. Il faut avoir une vision large, penser à partir de l'univers de l'auteur, et j'ajouterai, et puis on pourrait développer, Gilles fera ça mieux que moi, et j'ajouterai enfin que l'élément financier est important, pas pour des questions d'argent, combien toi tu gagnes, tu gagnes plus que moi ou moins que moi, mais parce que c'est une reconnaissance, bon, en dehors du fait que l'argent aide à vivre et aide à vivre les siens, les femmes ou enfants ou maris, etc., parce qu'on n'est jamais seul, c'est un peu long, mais c'est important, ce sont des points, il y a d'autres gens, mais dire que l'argent n'est pas important, dire que l'éditeur n'est pas important, dire que le lecteur n'est pas important, ça voudrait dire qu'on est tout seul, ce qui est une pure absurdité, donc... L'argent est important comme valeur financière qui vient s'ajouter à la valeur esthétique. Mais l'argent est important. On est content quand, par exemple, on travaille pour la télé ou la radio, d'être payé pour ce travail, comme peut l'être un artisan, d'être payé pour une poterie ou pour une tapisserie. Voilà.
Est-ce que partager le point de vue de Xavier Méjean, Thomas D.
Je partage malheureusement beaucoup de points de vue avec Xavier Méjean. Ce qu'il dit sur le fait que l'éditeur doit aider un auteur sur son texte et pas s'effacer, Moi, je le formule autrement. Je pense que je dois aider mon auteur à faire le livre qu'il a toujours voulu faire et essayer de voir là où il se trompe. S'il se trompe, des fois, il se trompe pas. Hein. Et lui dire, voilà, je pense que tu te trompes et je le ferai comme ça, moi, en tant qu'auteur, même si j'écris. Mais réfléchis, si tu le faisais comme ça, est-ce que ce serait mieux? Est-ce que c'est pas en fait ce que tu veux faire? Le second truc concernant l'argent, et je trouve pas que ce soit cynique d'en parler ou de mettre ça en balance, j'ai remarqué quelque chose avec mes éditeurs à moi. Si je leur demande pas un petit peu d'argent pour mes livres, mais une fois que le livre sort, ils s'en occupent pas. Il faut un petit peu que le livre leur ait coûté, il faut un petit peu qu'on leur ait pris un peu quelque chose pour qu'ils se rendent compte que ça a de l'importance pour nous, on considère que ça a de la valeur. Et puis, il faut qu'ils fassent de la promotion, il faut qu'ils fassent des choses. Et ça, c'est normal de négocier tout ça. Et je ne trouve pas que ce soit grossier ou qu'il faille laisser ça en placard ou en parler à demi-mot. Et je ne trouve pas que le problème de l'argent, le problème de la promo, le problème des investissements, ce soit tabou. Au contraire, un auteur, surtout en France, où très peu d'auteurs ont d'agents, quasiment personne n'a d'agent en France, moi j'en ai pas, c'est nous qui faisons notre négociation pour avoir de la promo, pour avoir des avaloirs, pour avoir des droits sur numérique, connaître les lois, etc. Donc voilà, on n'a pas d'agent.
Peut-être la vision anglo-saxonne, Marie-Janice.
I grew up poor, so absolutely, cha-ching, absolutely. But Jean-Philippe, I was actually really gratified as a romance writer to hear you asked, you know, why are you writing, you know, from the first point of a killer, are these dark thoughts you have? Are you trying to make a statement? Because there's sex in my books. People don't think anything of, well, how much research did you and your husband do for these books? You know, ha, ha, ha. But nobody asks mystery writers, how many prostitutes did you kill when you were researching, writing your series? It's so realistic. So it was so awful for you, but a great thrill for me to have you kind of on the hot seat, because I'm always on the sex hot seat. Wow, don't translate any of that.
Moi, j'ai grandi dans la pauvreté, donc toutes ces questions d'enfants m'intéressent énormément. Mais pour ce qui concerne Jean-Philippe, ce qu'il a dit au sujet de ce que vous avez dit au sujet de son livre sur un tueur en série écrit à la première personne, moi je dois dire que dans mes livres, il est souvent question de sexe, et souvent on me pose des questions sur le sexe et on me demande quelle sorte de recherche j'ai fait avec mon mari pour pouvoir écrire des passages sexuels comme ça. Mais en fait, les auteurs de polar, on ne leur demande pas combien de prostituées vous avez tuées pour être capable de décrire l'assassinat d'une prostituée. Oui, toutes ces questions me touchent beaucoup.
And I definitely think of most of my American colleagues have agents, and the thought on the, so I think that's good and bad for you guys. The good news is you only got half the rejections I did, because if you're not pitching agents, they're not saying no. But as writers, sometimes it's really hard for us to get behind our own books. It's really hard for us to fight for our own books and to have to fight for the advertising money. And just even the flap copy and the cover, that would be so difficult for me. And I'm just feeling really blessed and grateful, and so much more admiration for you guys and what you have to go through. Because writing itself can be difficult. And then when it's all done, you're not done fighting. So that's amazing to me that you guys can do that.
Ah, je suis vraiment épatée de découvrir que vous n'avez pas autant d'agents que nous aux États-Unis, et c'est vraiment quelque chose de très très important. Bien sûr, il y a du bon et du mauvais, mais peut-être que vous avez reçu la moitié moins de rejets que moi, parce que finalement, comme c'est mon agent qui vend mon bouquin, et quand il est rejeté, bon, il y en a peut-être plus, quoi. Donc c'est peut-être ça, côté positif. Mais bon, je me rends compte que c'est très difficile, je sais que c'est très difficile pour un auteur d'écrire, mais si en plus vous devez vous battre pour vendre votre livre, pour vos budgets de com, alors là, je suis extrêmement admirative. C'est déjà tellement dur d'écrire, et si en plus vous devez faire tout ce travail, le travail de l'agent, finalement, je me demande comment vous en sortez.
Ce sont des vraies questions. Si vous le voulez bien, j'ai comme une intuition qu'on se reverra l'année prochaine. C'est une question que j'aborderai sur justement ces questions financières, l'auteur, l'éditeur et les intermédiaires. Je pense que ça pourrait être une discussion extrêmement intéressante, puisqu'évidemment on parle avant tout de livres imaginaux et d'écrivains, mais parler d'économie aussi, parler de la réalité du métier, de comment on en vit et comment on construit des rapports sains entre éditeurs et auteurs. Il n'y a pas de raison, la preuve, il y en a qui ont les deux casquettes, donc ça doit être gérable. Bien, je pense que c'est des choses qu'on abordera l'année prochaine. En attendant, je voudrais aussi savoir quelles sont les conditions matérielles de votre écriture. Alors, je n'interrogerai pas Emmanuel Nouk, elle, vous le savez, elle a été embauchée à la bibliothèque, la BMI d'Épinal, donc là, la question était simple. Pendant les heures de service, au lieu de classer les livres, elle écrivait bord de marge. Et en quelque sorte, c'était une façon pour la ville de soutenir un auteur d'imaginaire naissant. Mais hormis ce cas, non, j'exagère.
Ils savaient absolument pas que j'écrivais, sauf quelques trois collègues partis par là qui étaient plus proches que les autres, sinon non. Et je vous signale qu'il y avait la conservatrice qui passait toujours derrière nos ordinateurs, justement pour voir ce qu'on faisait et que je ne pouvais pas écrire. Je pense que je réfléchissais beaucoup sur ça, et après le soir, j'écrivais tout ce que j'avais construit mentalement dans la journée.
C'est important parce qu'il y avait une légende qui commençait à naître. Donc, elle a de la défense, une légende, une nouvelle écrivain, mais elle est déjà rentrée dans le milieu de l'édition. Je suis extrêmement impressionné. En tout cas, quand on a des romans pour la jeunesse de cette qualité et une telle répartie, je me dis voilà, un auteur qui est promis à un excellent avenir, et c'est tout le mal qu'on lui souhaite. Déjà d'autres projets.
Moi, j'ai toujours des tonnes de projets. Après, ça dépend pas de moi. Comme vous disiez, ça dépend de ça, de mes éditeurs, des gens qui ont besoin de moi. Donc, on verra, je peux rien dire de pour l'instant.
Alors, plus sérieusement, puisque ce n'était pas la bibliothèque, dans l'atelier d'Emmanuel, comment on travaille? Comment vous travaillez? Alors, ne me répondez pas à la plume, parce que ça, on laisse ça à certains auteurs. Mais les gens sérieux, on travaille comment?
Non, sérieusement, à partir du moment où j'ai une date fixe pour
voir
le rang, je
ne
pouvais plus écrire à la main ce que je faisais avant.
C'est vrai?
Oui. Pourquoi? Non, mais j'ai toujours été un peu plongée dans le 19e. Ouais, j'ai écrit à la main, avec plume, avec tout le blabla qui va avec, les cachets de tir et le velin, enfin bref. Non, mais j'ai dû abandonner tout ça parce que malheureusement, quand on veut rendre un travail assez rapidement, bah, l'ordinateur, c'est le meilleur moyen. Et sinon, bah, moi je peux écrire que dans le silence le plus total et avec des rituels un peu idiots et tout.
On ne demandera pas de choses indiscrètes, mais pas de musique, non?
Non, j'y arrive pas. Par contre, en dehors de l'écriture, il y a certaines musiques qui m'inspirent beaucoup pour des personnages, par exemple, tout ça, mais je ne mets pas pendant l'écriture, sinon ça me déconcentre. Je suis très dissipée et si je sais qu'il y a quelque chose de bon qui m'attend dans mon frigo ou qu'il y a un épisode d'une série télé qui va commencer, je précise, c'est assez dur que je sois cadrée et très.
Jean-Philippe Jaworski, comment écrivez-vous, mais très concrètement, parce que vous avez, chacun le sait, encore un métier, premier métier en tout cas, qui est enseignant, vous suivez pour le moment en tout cas, donc vous n'écrivez pas pendant vos heures de cours. Il n'y a pas ça, ça paraît impossible de toute façon.
Ça m'arrive.
Pendant que les élèves travaillent.
Pendant que les élèves travaillent, pour travail.
Concrètement, comment écrivez-vous?
Bon, ça m'arrive rarement en cours. Il faut quand même que je les surveille parce qu'il y en a toujours deux ou trois qui ont des strabismes prononcés. Donc je note ça aussi. Sinon, comment je travaille? Bon, je travaille surtout pendant les vacances. Je travaille beaucoup pendant les grandes vacances parce que les vacances, les petites vacances en fait, sont un petit peu parasitées par les corrections de copies. Je dois dire que j'ai été ces dernières années de moins en moins productif pendant les petites vacances en raison de l'accroissement de plus en plus net de nos effectifs en classe qui faisait exploser le nombre de copies dans les paquets de copies. Et quand je peux, je travaille le soir. Mais il faut que j'ai d'abord épuisé toutes mes copies parce que j'écris pas mal par imprégnation. Et si j'essaye d'écrire après avoir corrigé les copies, j'ai un style très juvénile et une orthographe très créative. Et j'ai besoin du dictionnaire hein, parce que je perds mon orthographe à mesure que l'année scolaire avance. Donc c'est surtout pendant les vacances, essentiellement le matin. C'est le matin où j'ai vraiment les idées fraîches et puis j'ai le tonus pour écrire pas mal. Et quand je me heurte à un problème, alors j'ai un autre lieu de travail qui est un parcours de santé dans la forêt où je vais courir. Et au bout d'une demi-heure, les idées tombent en place. Je pense que c'est dû à l'oxygénation provoquée par le sport. Je cours et au bout d'un moment, les idées se mettent en place.
C'est pas une hallucination?
Oui, c'est vrai qu'au bout d'une demi-heure, c'est le moment où on commence à générer des endorphines.
Ça explique la
question. Peut-être un petit shoot.
Thomas D, plus sérieusement, comment écrivez-vous? Le matin aussi?
Alors, j'ai un rythme de vie assez étrange puisque je me couche à 9h du soir, 9h30. Et je me lève régulièrement sans réveil à 4h30, 5h. Les enfants dorment, la maison est calme, je me fais un litre de thé et où j'écris, où je réponds mes emails, où je fais des choses tranquilles dans la maison silencieuse. Moi, j'écris à la main. J'écris à la main sur des blocs avec un stylo plume. Je fais des pattes de mouche que personne ne peut lire à part moi. C'est pour ça que je suis plagié. Et en fait, une fois que j'ai tellement de carnets de trucs à droite, à gauche, j'essaye de sauver de la poubelle. Ma femme met parfois à la poubelle en pensant que c'est n'importe quoi. J'ai récupéré un roman comme ça. Je prends mon ordinateur et puis je commence à taper. J'aime bien écrire dans les bars. J'aime bien les ambiances bruyantes. J'aime bien écrire dans l'avion. Je prends beaucoup l'avion pour voyager. J'adore voyager. J'aime bien écrire au restaurant. Je suis pas forcément en silence. Par contre, j'écris jamais en musique. Ou alors les musiques de bar, les trucs que j'écoute pas. Et souvent, j'écris, c'est très explosif. Je vais écrire pendant un mois sur l'année et je vais plus rien écrire du tout pendant 11 mois. Ça me pose pas tellement de problèmes. Je vais écrire juste pendant 3 jours. Je suis tranquille à la maison, il n'y a personne. Et j'écris.
Et vous, Marie-Janice Davidson, comment écrivez-vous très concrètement?
I've only been able to write full time for the last 5 years, and then, before that, I wrote while I was at all my day jobs, and I was a terrible employee. And the key is you have to set up your workspace so no one can come up behind you. So I would get all my work done in the morning, and then I'd write all my books all afternoon. Just the worst employee ever. So yeah, set up your workspace so people can't come up behind you, and your second book will be done just in no time. But now that I am lucky enough to write as my full-time job, I'm even lucky enough to have an assistant, and I value her because I was such a bad assistant for so many years, so I really value good assistants. And we in the mornings we usually work on business invitations to wonderful festivals in France, and yes, please. And speaking invitations and reader fan mail and such like that. And in the afternoons, I edit everything I wrote the day before, and then I write any new stuff I can. I like to get at least 10 or 20 pages a day, but I probably only work 25 or 30 hours a week, and I'm, like I said, I'm so fortunate that I can do that. But if it's deadline, I mean, there will be, I'll write, I can 40, 50, 60 pages a day sometimes, depending on how much I haven't written in the months before. So definitely it's dictated a lot by deadlines. And I love what you said, by the way, how you have your whole life to write the first book and you've got 6 months to get the second one out. That I loved that.
C'est très bien. Ça, j'ai la chance de pouvoir travailler à plein temps depuis 5 ans environ. Et avant, j'avais toutes sortes de petits boulots et j'étais une très mauvaise employée. Mais j'étais assez efficace, je m'organisais, j'organisais mon espace de travail de sorte que personne ne puisse regarder derrière mon épaule pour voir ce que je faisais. Et donc le matin, je faisais mon travail et l'après-midi, j'écrivais. Et bon, maintenant, j'ai la chance de pouvoir écrire à plein temps et j'ai même une adjointe qui m'aide. Et donc le matin, ce que nous faisons, c'est nous lisons les emails, tous les courriers que nous recevons des lecteurs, les merveilleuses invitations comme pour venir rencontrer les gens en France. Et si vous me réinvitez, vous pouvez me réinviter. Si vous voulez me réinviter, c'est possible. Et l'après-midi, je revois ce qu'on a fait la veille, ce que j'ai fait la veille comme travail d'abord, et puis après, je rédige. Donc j'écris 10 à 20 pages par jour. Donc je travaille entre 25 et 30 heures par semaine. C'est une chance extraordinaire, c'est pas énorme. Sauf quand j'ai des échéances à rencontrer, où là je peux aller jusqu'à 40 ou 60 pages c'était par jour, hein, 10 à 20 pages par jour. Et sauf quand j'ai des échéances à rencontrer, où là je peux aller jusqu'à 40 ou 60 pages par jour si j'ai du retard. Hein. Mais c'est tout à fait ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il faut toute une vie pour le premier roman, et pour le deuxième roman, vous avez 6 mois.
C'est la même chose pour vous. Quand on replonge dans vos premiers écrits, des lieux même gens, toute une vie pour un premier roman et 6 mois pour le second.
Oh bah d'un point de vue éditorial, oui, mais il ne faudrait pas vous poser la question de comment j'écris. L'année dernière, ça a fait fuir Robin Hobb, hein, qui m'a regardé comme un dément. J'ai l'impression de faire artiste de musical qui va faire son vieux numéro.
Il va quand même falloir leur faire.
Il va falloir leur faire, voilà. Alors, je réfléchis pendant des années, je lis pendant des années sur une idée. Je ne prends pas spécialement de notes ou elles sont en tout cas pas méthodiques. Puis l'écriture va me demander 2 ans. Durant la première année, je crée, mettons, si j'imagine qu'il y a 40 chapitres, je crée 40 fichiers. Ça peut bouger après. Je mets des mots dans les différents fichiers, des lignes de dialogue, etc. Une fois qu'une sorte de première couche qui est faite, je rédige le roman, ce qui va assez vite, puisque déjà tout ce travail qui pour moi est de l'écriture a déjà été fait. Ce qui fait que, par exemple, là, il me reste 2 chapitres pour finir mon roman actuel, qui sont pas du tout le dernier et l'avant-dernier qui sont écrits depuis longtemps, qui sont le chapitre 18 et le chapitre 35.
C'est une façon en effet originale. Ça montre que tout le plan, c'est ça l'essentiel, la construction pas là. Mais je vous pose quand même une question, je sens que les lecteurs se la posent. Vous ne seriez pas, Xavier Homéjean, sans vouloir être désagréable, légèrement obsessionnel?
Oh bah certainement, oui, mais j'espère que ça ne rejaillit pas dans le résultat, voilà. Mais en fait, moi, je pense mon travail d'écriture, là, ça va devenir barbant, c'était plus drôle jusqu'à maintenant. J'avais bien travaillé au coup du chapitre 18 et chapitre 35, mais en fait, je pense qu'on travaille plutôt en code picturaux. Moi, la peinture, je comprends bien pour expliquer la façon dont je travaille, donc il est vraiment par étapes. Et effectivement, un tableau, on ne le finit pas forcément, on ne le commence pas en haut à gauche, on ne le finit pas en bas à droite, un tableau peint. Donc je le finis là où il doit être achevé, et qui n'est pas forcément le terme du roman.
Ça ne va pas être très facile d'être votre directeur de collection.
Ben, en général, non, c'est, j'en change.
Un livre, un directeur de collection.
Oui, voilà.
Juste pour reprendre ce que tu as dit, c'est quelque chose que je comprends très bien, parce que moi je me suis aperçu que mes livres, ils venaient bout par bout, dans le désordre, un bout de dialogue, un bout de description, un bout de scène. Et c'est pour ça que j'écris à la main sur des carnets, que j'ai toujours un carnet. J'écris tous ces bouts-là, et il y a 2 boulots. Il y a le boulot d'écrire tous les bouts, et après il y a le boulot de mettre tous les bouts dans l'ordre, ou de choisir de ne pas les mettre dans l'ordre, ce qui m'arrive des fois. Et je trouve que c'est des fois intéressant de ne pas mettre le livre dans l'ordre. On a trop l'habitude de lire des livres qui sont dans l'ordre. Voilà.
En tout cas, pas ce qu'elle nous a fait faire Stéphane Beauverger, le prix imaginal des lycéens, un livre dans l'ordre, pas tout à fait. Enfin, un ordre littéraire,
oui,
pas un ordre temporel en tout cas. Nicolas Bouchard, et vous, comment vous écrivez? Bon, à la banque, on le sait, pendant que personne ne surveille,
non,
mais
non,
à part ça,
sérieusement. Ça n'est malheureusement pas possible. Non, en fait, je dispose...
Ça nous éviterait peut-être des dégâts.
Encore que moi je suis chargé de contrôler les autres, alors si mon attention se relâchait, peut-être qu'il y aurait d'autres catastrophes. Bon, je dispose de peu de temps, j'ai donc un travail à temps plein, j'ai une famille que je ne veux pas négliger, et donc je dispose une heure et demie par jour le soir. J'ai pas de copie à corriger, moi ça va. Donc une fois que tout le monde est couché, je me mets devant mon ordinateur, je me mets de la musique, pas tellement pour le plaisir d'écouter de la musique, mais un petit peu une façon de se détacher du monde, quoi, en fait, hein. Une sorte de rituel destiné à abolir les contraintes d'espace et de temps. Musique que je choisis éventuellement en fonction du bouquin. Et là, je me mets à écrire pendant donc à peu près une heure. J'essaye, mon challenge, c'est de ne pas aller me coucher tant que je n'ai pas fait 5000 signes. C'est la norme, c'est la règle. Mon frère un jour m'avait dit que Jack London faisait un peu pareil, c'est-à-dire il s'était astreint à écrire un certain nombre de pages, sauf que moi, après avoir écrit mes 5000 signes, je me couchais, lui, il commençait à picoler. C'est la différence. Et concernant l'élaboration du roman, alors je suis pas très désordonné, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est un peu comme Xavier, les idées peuvent parfois mûrir très longtemps. Des fois, une idée rencontre une proposition qui est faite, des fois, rencontre une autre idée. Enfin, c'est très très variable, c'est très très informel. Par contre, une fois que j'ai un projet vraiment que je veux mener à bien, je commence par faire 3-4 pages de résumé bien précis que je soumets aux responsables de collection, par exemple. Et ensuite, lorsque on est d'accord sur le concept, je fais un synopsis assez détaillé, une page par chapitre, avec donc les personnages, le lieu, l'enjeu du chapitre. Je m'astreins à ce genre d'exercice qui peut paraître un peu, mais moi ça me rassure. Ensuite, le résumé évidemment chronologique de l'action, et à la fin, un cliffhanger. Voilà, et ça fait comme ça 20 ou 30 fiches suivant les chapitres. Et puis, quand je commence à écrire, en fait, j'oublie tout ça et puis j'écris. Quoi, hein. De temps en temps, je vais y jeter un coup d'œil parce que j'oublie un truc, mais je n'ai pas besoin de mes fiches en fait. C'est vraiment le truc un peu compulsif qu'on fait pour se rassurer.
En fait, l'heure de nous quitter, non pas totalement définitivement, on va se retrouver à la Bulle du Livre, près du bar, parce que traditionnellement, ça fait 10 ans quand même maintenant, on retrouve les derniers auteurs, l'équipe du festival et les derniers lecteurs festivaliers. Tout le monde est invité, sans distinction, à partager un verre de l'amitié, écouter quelques discours. Vous rassurez, vous serez extrêmement brefs. On est tous dans le même état d'épuisement, d'épuisement heureux, mais donc on n'a pas envie d'être très long. Ça vous profitera, et surtout on a envie de boire un coup comme vous tous. Ça sera comme ça qu'on terminera dans l'amitié le festival. Juste avant, à chacun d'entre vous, en 30 secondes, c'est quoi être romancier en 30 secondes? Nicolas Bouchard.
C'est faire vivre des personnages qu'on a dans la tête et attirer le lecteur dans des filets pour l'amener de la première page jusqu'à la dernière page le plus rapidement possible.
Xavier Mauméchant.
C'est créer des souvenirs à des gens qu'on ne rencontrera jamais. Pas souvent. C'est créer une mémoire artistique des gens qui habitent peut-être des kilomètres.
Jean-Philippe Jaworski.
Pour moi, le romancier, c'est un passeur. Alors, il peut faire passer différentes choses, des émotions, des personnages, des voix, mais avant tout, c'est un passeur.
Thomas Day.
Pour moi, c'est clairement éclairer les ténèbres du monde.
Emmanuel Bonk.
C'est croire que tout est possible.
Évidemment, last but not least, on a voulu laisser terminer notre invité qui nous vient des États-Unis. Le dernier mot, c'est pour Marie-Janice Davidson.
A free trip to France is what that is. And to be very blessed, of course.
Le voyage gratuit en France.
Ça sera sur ce mot d'humour qu'on terminera. C'est 11e Imaginal, c'est 10 ans d'Imaginal. On les a passés avec vous. On a déjà envie de vous retrouver à l'année prochaine, au mois de mai. Les dates sont déjà sur le site. En tout cas, merci à tous et vive l'imaginaire!